31. L'œuvre des mauvais esprits. Les relations existant entre le monde visible et le monde invisible, le ministère des anges de Dieu et l'œuvre des mauvais esprits sont des sujets clairement révélés dans les Écritures et liés de manière inextricable à l'histoire de l'humanité. Mais il y a une tendance croissante à douter de l'existence des mauvais esprits, tandis que de nombreuses personnes considèrent comme les esprits des morts les saints anges, qui sont des esprits serviteurs, envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Or, non seulement les Écritures enseignent la présence des anges, bons et mauvais, mais elles présentent aussi des preuves incontestables qu'ils ne sont pas les esprits désincarnés des morts. Les anges existaient déjà avant la création de l'homme. Lorsque Dieu posa les fondations de la terre, les étoiles du matin criaient de joie et tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Après la chute de l'homme, Dieu envoya des anges pour garder l'accès à l'arbre de vie avant qu'un seul être humain ne soit mort. Les anges sont, par leur nature, supérieurs aux hommes, car le psalmiste déclare que l'homme a été créé un peu inférieur aux anges. L'Écriture nous informe sur le nombre, la puissance et la gloire des êtres célestes, sur leur relation avec le gouvernement de Dieu et aussi avec l'œuvre de rédemption. Ils sont dans sa salle d'audience, attendant ses ordres. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel, et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous ses messagers, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. L'apôtre Jean nous dit « J'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. » Le prophète Daniel, lui aussi, avait contemplé les messagers célestes. 1000 milliers le servaient, 10 000 fois 1000 se tenaient debout devant lui. L'apôtre Paul nous parle de dizaines de milliers d'anges. Si aveuglante est leur gloire et si rapide leur vol, en tant que messager de Dieu qu'il est dit d'eux qu'ils sont « comme la foudre ». Il est dit aussi de l'ange qui apparut au tombeau du Sauveur, « son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige ». Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Lorsque Sennachérib, le hautain roi assyrien, proféra des injures et des blasphèmes contre Dieu et menaça Israël de destruction, cette nuit-là, le messager du Seigneur sortit et abattit dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, extermina tous les vaillants guerriers, les chefs et les princes. Alors le roi retourna dans son pays, la honte au visage. Dieu envoie ses anges vers ses enfants en mission de miséricorde, vers Abraham avec des promesses de bénédiction, vers les portes de Sodome pour délivrer le juste Lot du destin maudit de cette ville, vers Élie sur le point de périr de fatigue et de faim dans le désert, vers Élisée qui vit une multitude de chevaux et de chars de feu entourant la petite ville cernée par ses ennemis, vers Daniel cherchant la sagesse divine à la cour d'un roi païen ou jeté en pâture au lion, vers Pierre condamné à mort dans un cachot du roi Hérode, vers les apôtres emprisonnés à Philippe, vers Paul et ses compagnons pendant la nuit de tempête sur la mer, pour ouvrir à l'Évangile l'esprit de Corneille, pour envoyer Pierre, porteur du message du salut, vers cet étranger païen. C'est ainsi que, à travers tous les siècles, les saints anges ont exercé leur ministère en faveur du peuple de Dieu. Un ange gardien est désigné pour veiller sur chaque disciple du Christ. Ces gardiens célestes protègent les justes de la puissance du malin. Satan lui-même le reconnut lorsqu'il dit « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ?» Voici, selon les paroles du psalmiste, comment est représentée la protection que Dieu accorde à son peuple. « Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Le Sauveur a dit, en parlant de ceux qui croient en lui, « Gardez-vous de mépriser un seul de ses petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. » Les anges chargés de veiller sur les enfants de Dieu ont accès en tout temps à sa présence. Ainsi, le peuple de Dieu, exposé à la puissance trompeuse et à la malice inlassable du prince des ténèbres, et se trouvant en conflit avec toutes les forces du mal, a la certitude que les anges du ciel veillent constamment sur lui. Cette assurance n'est pas superflue, Si Dieu a accordé à ses enfants la promesse de sa grâce et de sa protection, c'est parce qu'ils doivent affronter des intelligences puissantes et malfaisantes, des intelligences nombreuses, déterminées et infatigables. Personne ne peut impunément rester ignorant ou insouciant de leur malignité et de leur pouvoir. Les mauvais esprits, créés à l'origine sans péché, étaient égaux en nature, en puissance et en gloire aux êtres saints qui sont maintenant les messagers de Dieu. Mais, déchus à cause de leur transgression, ils se sont ligués pour déshonorer Dieu et détruire l'homme. Unis à Satan dans une même rébellion et chassés du ciel en même temps que lui, ils ont, au travers de tous les siècles successifs, collaboré avec lui dans sa lutte contre l'autorité divine. L'Écriture nous parle de leur confédération et de leur gouvernement, de leurs différents ordres, de leur intelligence et de leur subtilité, et de leurs desseins malveillants contre la paix et le bonheur de l'homme. L'histoire de l'Ancien Testament mentionne occasionnellement leur existence et leur œuvre, mais c'est pendant que le Christ était sur la terre que les mauvais esprits manifestèrent leur puissance de la manière la plus frappante. Le Christ était venu pour réaliser le plan conçu pour la rédemption de l'homme, et Satan avait décidé d'affirmer ses droits à la domination du monde. Il avait réussi à instaurer l'idolâtrie dans tous les coins de la terre, à l'exception de la Palestine. C'est dans le seul pays qui n'avait pas entièrement cédé au pouvoir du tentateur que le Christ vint déverser sur les hommes la lumière du ciel. Deux puissances rivales revendiquèrent la suprématie. Jésus tendait les bras avec amour, invitant tous ceux qui le désiraient à trouver en lui le pardon et la paix. Les armées des ténèbres se rendirent compte que leur pouvoir n'était pas illimité et comprirent que, si la mission du Christ réussissait, leur domination toucherait bientôt à sa fin. Satan ragea comme un lion enchaîné et manifesta avec défiance son empire sur le corps et l'âme des hommes. Le Nouveau Testament exprime clairement le fait que des hommes ont été possédés par des démons. Les personnes qui en étaient affligées ne souffraient pas seulement de maladies provoquées par des causes naturelles. Le Christ discernait parfaitement l'ennemi, et il reconnaissait la présence et l'œuvre directe des mauvais esprits. Un exemple frappant de leur nombre, de leur puissance et de leur malignité, mais également de l'autorité et de la miséricorde du Christ, nous est donné dans le récit biblique de la guérison des démoniaques de Gadara. Ces pauvres fous, rejetant toute contrainte, se tordant, écumant, rageant, remplissaient l'air de leurs cris et se meurtrissaient eux-mêmes, mettant en danger tous ceux qui voulaient les approcher. Leur corps ensanglanté, défiguré et leur esprit égaré présentaient un spectacle propre à plaire au prince des ténèbres. L'un des démons qui dominait ces malheureux déclara « Mon nom, c'est Légion, car nous sommes beaucoup. » Dans l'armée romaine, une légion se composait de 3 à 5 000 hommes. Les armées de Satan, elles aussi, sont organisées en compagnies, et, à elles seules, chaque compagnie comptait autant de démons qu'une légion romaine comptait d'hommes. Sur l'ordre de Jésus, les mauvais esprits abandonnèrent leurs victimes, laissant ces deux hommes calmement assis aux pieds du Sauveur, soumis, intelligents et doux. Mais Jésus permit aux démons de précipiter dans la mer un troupeau de cochons. Cependant, comme pour les habitants de Gadara la perte de ces animaux était plus importante que les bénédictions apportées par le Christ, ils prièrent le divin guérisseur de se retirer. C'est ce que Satan espérait. En rendant Jésus responsable du dommage subi, il suscita la peur égoïste de ces gens et les empêcha d'écouter les paroles de celui-ci. Satan accuse constamment les chrétiens d'être une cause de calamité, de malheur et de souffrance, au lieu d'en endosser, lui-même et ses agents, la responsabilité. Mais les desseins du Christ ne furent pas contrecarrés. Il permit aux mauvais esprits de détruire ce troupeau de cochons pour attirer l'attention des Juifs qui élevaient ces animaux impurs pour le gain qu'ils en recevaient. Si le Christ n'avait pas retenu ces démons, ils auraient précipité dans la mer non seulement les cochons, mais aussi leurs gardiens et leurs propriétaires. La vie sauve des gardiens et des propriétaires de ces cochons était due uniquement à sa puissance, exercée avec miséricorde pour leur délivrance. De plus, Jésus permit à cet incident d'avoir lieu pour montrer aux disciples le pouvoir cruel de Satan sur les hommes comme sur les animaux. Le Sauveur voulait que les siens connaissent l'ennemi qu'ils allaient affronter afin de ne pas se laisser tromper et vaincre par ses ruses. Il souhaitait aussi que les habitants de cette région soient témoins de son autorité sur la servitude imposée par Satan et de la libération des captifs de ce dernier. Et, bien que Jésus lui-même soit reparti, les hommes qu'il avait si miraculeusement délivrés restèrent pour publier la miséricorde de leur bienfaiteur. Les Écritures nous rapportent d'autres exemples de nature similaire. La fille de la femme syrophénicienne était cruellement tourmentée par un démon, que Jésus chassa par sa parole. Un démoniaque aveugle et muet, un garçonnet, qui a un esprit muet, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Le pauvre fou, possédé par un esprit de démon impur, qui perturba le culte du sabbat à la synagogue de Capharnaüm. Tout cela furent guéris par le Sauveur compatissant. Dans presque chaque cas, le Christ s'adressa au démon comme à une entité intelligente, lui ordonnant de sortir de sa victime et de cesser de la tourmenter. Les adorateurs, dans la synagogue de Capharnaüm, voyant son grand pouvoir, furent saisis d'effroi. Ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puisse aux esprits impurs et ils sortent. » On représente généralement les personnes possédées par des démons comme souffrant intensément. Cependant, il y a des exceptions à cette règle. Pour l'obtention des pouvoirs surnaturels, certaines personnes accueillaient favorablement l'influence satanique et, bien entendu, elles n'avaient aucun conflit avec les démons. C'est à cette catégorie qu'appartenaient ceux qui possédaient l'esprit de divination. Simon le magicien, Élimas le mage et la jeune servante qui suivit Paul et Silas à Philippe en criant derrière eux. Personne ne se trouve en plus grand danger devant l'influence des mauvais esprits que ceux qui, malgré le témoignage direct et abondant des Écritures, nient l'existence et l'activité du démon et de ses anges. Tant que nous sommes ignorants de leurs ruses, ils possèdent un avantage presque inconcevable. Beaucoup de personnes écoutent leurs suggestions tout en s'imaginant suivre les ordres de leur propre sagesse. C'est pourquoi, à l'approche des temps de la fin, lorsque Satan travaillera avec encore plus de puissance pour tromper et détruire, il répandra partout la croyance qu'il n'existe pas. C'est sa tactique pour se dissimuler et sa manière d'agir. Il n'y a rien que le grand manipulateur redoute autant que de nous voir prendre conscience de ses ruses. Pour mieux déguiser son vrai caractère et ses véritables desseins, il s'est fait représenter de manière à ne provoquer aucune émotion plus grave que le ridicule ou le mépris. Il lui convient de se voir décrit comme un être ridicule ou repoussant, difforme, moitié animal et moitié homme. Il lui convient d'entendre son nom utilisé en plaisanterie et en moquerie par ceux qui se croient intelligents et bien informés. C'est parce qu'il s'est masqué avec un art si consommé que cette question est très souvent posée. Cet être existe-t-il vraiment ? Une preuve de son succès est que des théories qui démentent le témoignage le plus positif des Écritures sont si bien accueillies dans le monde religieux. C'est parce que Satan peut si facilement dominer l'esprit de ceux qui ne sont pas conscients de son influence que la parole de Dieu nous donne tant d'exemples de son œuvre nocive, en dévoilant devant nos yeux sa force secrète et nous mettant ainsi en garde contre ses attaques. La puissance et la malignité de Satan et de son armée pourrait à juste titre nous alarmer si nous ne pouvions trouver refuge et délivrance dans la force invincible et encore plus grande de notre Rédempteur. Nous fermons soigneusement nos maisons avec des serrures et des verrous pour protéger nos biens et nos vies contre les hommes méchants. Mais nous pensons rarement aux mauvais anges qui tentent constamment d'avoir accès à notre cœur et contre leurs attaques, nous ne possédons, par nos propres forces, aucune méthode de défense. Si on le leur permet, ils peuvent égarer notre esprit, induire des désordres dans notre corps et le tourmenter, détruire nos biens et notre vie. Leur seul plaisir est de provoquer la misère et la destruction. Terrible est la condition de ceux qui résistent aux exigences divines et cèdent aux tentations de Satan, jusqu'au moment où Dieu les abandonne à la domination des mauvais esprits. Mais ceux qui suivent le Christ sont toujours en sécurité sous sa garde. Des anges puissants en force sont envoyés du ciel pour les protéger. Le malin ne peut traverser la barrière d'anges que Dieu a postée autour de son peuple.